Vous écoutez
RMC.
Jeudi 25 juin.
L'info sur RMC.
Il est 8h02, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Didier Raoult face à Jean-Jacques Bourdin, l'infectiologue qui déchaîne les passions, et sur BFM TV et RMC à 8h20 ce matin en direct, en studio. A-t-il convaincu lors de son audition à l'Assemblée? Le professeur a dénoncé l'organisation désuète et les conflits d'intérêts dans la gestion de la crise. Après les applaudissements, les hausses de salaire, une enveloppe de 6 milliards d'euros va être débloqué pour les soignants. Les médecins ne sont pas concernés. Et puis les règles du chômage partiel vont changer à partir du 1er juillet. L'Élysée annonce la mise en place d'un système longue durée indemnisant à 84% certains salariés sur 2 ans. Explication dans le journal. Bienvenue sur RMC. Le professeur Raoult droit dans ses bottes hier face à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Une audition qui ressemblait parfois à s'y mépendre à un cours magistral. Un professeur donc qui a distribué les bons et surtout les mauvais points, se plaçant au-dessus de la mêlée. Caroline Philippe.
Des tests organisés à ses yeux de façon archaïque, le professeur Raoult estime que la technique de tests mise au point par l'Institut Pasteur à Paris n'a pas été déployée assez vite partout en France, et il regrette que ces tests n'aient pas été généralisés.
Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects ou contacts. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. On n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. C'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie.
Un avis partagé par certains médecins. Le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, le reconnaît. Il fallait tester plus.
Il a été vraiment novateur, avec une intuition, c'est-à-dire mettre très rapidement, avant tous les autres, au point les tests RT-PCR, en se procurant la matière première pour pouvoir les faire, en mettant au point les tests à grande échelle et en proposant à la population de Marseille de les tester. Et je crois que c'était la bonne stratégie.
En revanche, le professeur Mégarban ne cautionne pas les critiques de Didier Raoult sur le conseil scientifique, qui n'en est pas un à ses yeux.
Ce matin, l'armée australienne annonce le déploiement dans les prochains jours d'un millier de soldats à Melbourne après l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19. Ils aideront notamment à surveiller l'évolution de l'état de santé des voyageurs placés en quarantaine dans des hôtels. Plus que quelques minutes donc avant l'interview du professeur Raoult qui sera en direct en studio pour répondre à vos questions, Jean-Jacques. Rendez-vous à 8h20 donc. Après les gros efforts, peut-être un peu de réconfort, du moins des hausses de salaire. Hier, une enveloppe a été mise sur la table par le ministre de la Santé, Olivier Véran. 6 milliards d'euros que devront se partager les hôpitaux, les EHPAD et une partie du secteur privé. Nous venons de joindre Rémi Brancardier, membre du collectif Interhôpitaux. Il affirme que le montant est très loin d'être suffisant.
J'ai plus l'impression que c'est un geste positif pour calmer la pression et la colère qui monte. Ces chiffres, c'est énorme, certes, mais on est totalement à côté de la plaque. Moi, j'invite M. Véran à sortir la calculatrice. 300 euros net pour 2 millions de salariés, ça fait quasiment le double. Les 200 000 emplois nécessaires dans les EHPAD, ce sont au minimum 8 milliards d'euros. Alors, où trouver une telle somme? Moi, je renvoie la question au gouvernement, qui a su sortir des milliards et des milliards pour les différents secteurs.
RMC 8h05, l'annonce concerne potentiellement plusieurs millions de personnes. Le nouveau dispositif de chômage partiel longue durée sera indemnisé à 84% du salaire net. Il entrera en vigueur dans très peu de temps, le 1er juillet. On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Benjamin Smadja. Concrètement, que prévoit ce nouveau dispositif?
Alors, il s'adresse aux entreprises qui connaissent une baisse importante de leur activité. On pense à l'aéronautique, à l'automobile ou le tourisme. Dès le 1er juillet, donc, ce dispositif permettra d'indemniser les salariés à 84% du salaire net, 100% pour les salariés au SMIC. L'État prendra en charge le salaire jusqu'à 85%. L'entreprise, de son côté, prendra en charge les 15% restants, et ce dispositif peut s'étaler sur 2 ans maximum. Mais attention, pour qu'il soit mis en place, il faut qu'un accord collectif majoritaire ou de branche soit signé. Pendant cette période, les suppressions d'emplois sont possibles, mais elles devront bel et bien figurer dans cet accord d'entreprise.
Et c'est donc un dispositif un peu plus généreux que le chômage partiel classique. D'ailleurs, les règles vont considérablement être modifiées.
Effectivement, à compter du 1er octobre, le salarié touchera non plus 84% de son salaire net, mais 72%. Pour la prise en charge, pareil, l'État se montre moins généreux, il finance 60%, et l'entreprise devra donc compléter les 40% restants. Pour ce dispositif classique, pas besoin d'accord d'entreprise. En revanche, l'employeur devra imposer le maintien de l'emploi pendant toute la durée de ce chômage partiel.
Merci Benjamin. Participation très faible attendue pour le second tour des élections municipales. C'est dimanche. revanche, dans les communes évidemment où les maires n'ont pas été élus dès le premier tour. Selon un sondage Odoxa réalisé pour l'Express, 22% des personnes interrogées ont décidé de ne pas aller voter et 30% ne sont même pas au courant qu'il y aura un second tour. Reportage à Vanves dans les Hauts-de-Seine où Romain Poiseau a pu constater que les habitants ne se sentent pas franchement concernés par ces municipales.
Dimanche, rendez-vous dans les urnes s'est affiché partout sur les panneaux de la ville. Pour autant, Ibrahima n'est toujours pas au courant de ce qui se passe le 28 juin.
C'est lié à quoi ? La musique ? La politique ?
De toute façon, pour lui, voter n'a plus aucun sens.
Je fais plus confiance aux politiques, en fait. On dirait qu'ils sont guidés par l'émotion, parfois. On raisonne pas dans le calme, en fait.
Coralie, elle, n'a pas la tête à voter. Elle a d'autres préoccupations que les élections municipales.
Parce qu'à l'heure actuelle, il y a le Covid, mais il y a aussi les emplois. Non, c'est pas l'essentiel.
Le Covid-19, grand perturbateur des municipales, Laura n'ira pas voter à cause de la crise sanitaire.
Je dois m'occuper de mes grands-parents, du coup, je veux pas prendre le risque, en fait, d'y aller, même si je suis masquée, qu'on apporte le stylo, que c'est super bien géré. Non.
Selon un sondage Odoxa, 30% des électeurs ne seraient pas au courant de l'existence d'un second tour et un quart aurait décidé de ne pas aller voter. Il faut s'attendre à une abstention record pour Gaël Slimane, président d'Odoxa.
On a vu la politique passer au second plan des priorités des Français. C'est déjà ce qui s'est passé au moment du premier tour qui avait consacré un record d'abstention. Ça leur apparaissait tellement secondaire, cette question électorale, qu'ils n'avaient pas voulu se déplacer. C'est triste. Mais ce n'est pas très étonnant.
Au premier tour des élections municipales, plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter.
En Île-de-France, le trafic des RER est très fortement perturbé aujourd'hui à cause d'un déraillement d'un train. Hier, il n'y avait pas de voyageurs, pas de blessés. Donc, température caniculaire attendue à Paris, 35 degrés, chaleur plus pollution égale restriction de circulation dans l'agglomération parisienne. Seules les voitures munies d'une vignette critère de 0 à 2 sont autorisées à circuler aujourd'hui. Le couturier Jean-Paul Gaultier, nommé ambassadeur de Sidaction, l'association se mobilise aujourd'hui. Elle avait dû annuler son traditionnel événement en avril dernier. Une soirée avec de nombreux artistes est organisée ce soir sur France 2. Florence Thune, directrice générale de Sidaction, espère que les dons seront nombreux.
C'est pour nous une occasion effectivement unique et une grande chance de pouvoir de nouveau avoir une journée de mobilisation. C'est important de ne pas oublier qu'aujourd'hui, il y a par exemple en France 173 000 personnes qui vivent avec le VIH. On est effectivement très inquiets pour nos engagements financiers à partir de 2021. On est aussi dans un contexte difficile. On a bien conscience qu'en ce moment, c'est aussi compliqué pour les Français qui ont aussi des difficultés économiques. Mais on sait aussi qu'on peut compter sur leur générosité, leur envie de continuer ensemble à lutter contre le VIH.
Un numéro vert contre la maltraitance animale, un fonds pour aider les refuges, au total 120 recommandations pour améliorer la condition animale en France. C'est très concernant, un Français sur deux possède un animal de compagnie. On a choisi de s'intéresser ce matin à la lutte contre l'abandon. Le rapport propose de mettre en place une attestation de connaissance minimale obligatoire pour détenir un chien ou un chat, dispositif que la SPA a déjà mis en place. Reportage de Thomas Chupin à Compiègne dans l'Oise.
Et parmi la centaine de chiens dans ce refuge SPA, Snoop en est à sa troisième famille adoptive en quelques mois. Anthony, l'un des salariés du refuge.
Alors, ils n'étaient effectivement pas prêts à accueillir un chien qui ne peut pas rester seul 5 minutes, parce que même sous la douche, le chien il commence à pleurer. D'où l'intérêt d'avoir des adoptants responsables qui viendront pour adopter Snoop.
Une vraie sélection des adoptants s'est donc installée ici, parce qu'Anthony a croisé de nombreux pseudo-amoureux des animaux.
Effectivement, les gens, quand ils arrivent ici, ils veulent un chien dit clé en main, que l'animal il soit directement éduqué, qu'il sache rester seul.
Et c'est vrai qu'il faut être prêt à ça. Il est donc obligatoire de remplir un long questionnaire pour que l'adoption soit acceptée. Christelle dirige ce refuge SPA.
On demande les conditions d'accueil. Jardin, pas de jardin, balcon, qui sait qui le promènera, combien de balades par jour.
Et il y a aussi d'autres questions. Par exemple, le comportement à avoir lors d'une bagarre entre chiens. La SPA vient aussi vérifier au domicile des adoptants que tout se passe bien.
Quand ça ne correspond pas, on leur dit non. Des fois, les gens y comprennent, ah bah oui, on n'avait pas réfléchi à ça, que l'animal sera malheureux avec eux.
Et en moyenne, c'est un visiteur sur 10 ici qui se voit refuser une adoption.